Soyez les bienvenus, vous dont l'œil étincelle, pour entendre une histoire encore. Approchez, je vous dirai celle. Je vous dirai celle de Charlemagne et du MLF. Une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. L'école privée Sainte-Marie, 6 rue Béteille à Rodez, Aveyron, n'était pas vraiment un repère d'anarchistes quand je l'ai fréquenté dans les années 70. Les échos de mai 68 avaient été tellement assourdis, avant de nous parvenir, que nous ne pouvions imaginer qu'ils avaient fait trembler le pouvoir et les institutions, et puis, tout cela ne concernait que les Parisiens, et ces derniers étaient par nature, dans notre échelle de valeur de bons provinciaux, des prétentieux dont la fréquentation ne pouvait rien apporter de bon. Sainte-Marie somnolait depuis des années, peut-être même depuis des siècles, sous la houlette d'une administration frileuse, mais l'enseignement, en lui-même, était de bonne qualité. En d'autres termes, l'école respectait les quotas habituels entre bons et mauvais professeurs, bons et mauvais élèves, bonnes et mauvaises classes. Le seul équilibre qui n'était pas respecté concernait la répartition entre filles et garçons. Lorsque j'y débarquais, en 1974, l'institution ignorait avec superbe la notion de mixité. Certains prétendaient même que la direction du lycée ne savait pas que le monde extérieur se décomposait, en proportions égales, en deux sexes distincts. On imagine donc ma surprise lorsqu'à l'orée de ma dernière année, celle du bac, je découvris, sur les bancs de ma classe, 6 filles, oui, 6 filles, des vraies, avec des cheveux longs et des jupes, et tout un tas de manières extravagantes que je découvrais avec étonnement. L'agitation liée à cette nouveauté, si l'on peut ici employer ce mot, retomba assez vite, et le train-train, propre à la vie lycéenne, reprenait ses droits lorsqu'une nouvelle venue intégra la classe début octobre. Elle s'appelait Julie. Elle apparut un lundi matin, quelques instants après le début du cours de mathématiques, et mes premières pensées, lorsque je la vis, furent « Elle est grosse, elle est moche et elle est mal fagotée ». Ce jugement à l'emporte-pièce reposait sur pas grand-chose, sinon ma méconnaissance du monde en général et des femmes en particulier. À la vérité, Julie n'était rien de tout cela. Simplement, elle ne ressemblait pas aux autres femmes que je connaissais. Quand elle entra, elle promena autour d'elle un regard désinvolte. Sur sa bouille un peu ronde, auréolée de cheveux courts et frisés, se devinait un léger sourire. Enveloppée dans un long pullover vert mauve, elle ne portait pas de jupe, mais un jean, et ses chaussures à bout carré étaient d'un modèle que je n'avais vu sur aucun pied auparavant. Le surveillant qui l'accompagnait nous donna son nom et précisa qu'elle nous rejoignait avec 2 semaines de retard parce que son père venait tout juste d'être muté à la préfecture de Rodez. Puis il nous demanda de lui faire bon accueil et s'en alla. Contre toute attente, elle ne s'assit pas avec les autres filles devant l'estrade, mais vint se mêler aux garçons qui occupaient le dernier rang, groupe disparate où se rassemblaient les cancres et les meilleurs de la classe, tout le monde y trouvant son compte. Comme j'avais quelques facilités en maths, j'occupais une place de choix dans cette dernière rangée et Julie vint s'installer près de moi. Elle planta ses yeux dans les miens et je fus frappé par la franchise de son regard.
« Comment tu t'appelles ?»
murmura-t-elle. « Bernard. »
« T'as une bonne tête. Moi, c'est Julie. »
Je ne pus soutenir son regard. Il était d'une telle intensité que j'avais l'impression qu'elle me déshabillait devant toute la classe. À cela s'ajoutait le fait qu'elle me trouvait une bonne tête. Ça n'était trop. Ma timidité et mon orgueil ne pouvaient supporter les forces conjuguées de ses yeux et de ses paroles. Je résolus de l'ignorer jusqu'à la fin du cours. Mais elle s'en moquait. Elle continua donc à me harceler avec des questions tantôt prévisibles.
Il est bien ou il est con le prof de maths ?
Tantôt surprenantes.
Faut croire en Dieu pour avoir de bonnes notes ici.
Je crus que mon supplice prendrait fin avec la sonnerie de la pause, mais il n'en fut rien, et elle continua à se comporter comme si nous étions les plus vieux amis du monde. Elle adoptait d'ailleurs ce comportement avec tout le monde, y compris les professeurs, et se permettait des remarques et des questions d'une franchise qui faisait frémir d'inquiétude et de bonheur toute la classe. En un mot commençant, Julie nous révéla, et dans ce « nous », il fallait englober les élèves, les professeurs, la direction et même les employés de la cantine du lycée à qui elle expliquait chaque jour, sans état d'âme, que la nourriture était infecte. Julie nous révéla donc que, loin des rues austères de Rhodes, de vastes mouvements vers la liberté s'étaient mis en branle. Sa drôlerie et son impertinence furent accueillies par les autres terminales, garçons et filles, comme une bouffée d'oxygène. La plupart des professeurs, moins coincés qu'ils n'y paraissaient, lui laissèrent une assez large liberté d'expression, avec deux exceptions notables. Le professeur d'espagnol, M. Mateo, et la professeure d'histoire-géo, Mme Magne. M. Mateo, le plus jeune de nos enseignants, avait le cheveu et la barbe noirs comme du charbon. Ses parents avaient fui l'Espagne franquiste et il affichait sans complexe ses convictions socialistes, ce qui était à l'époque et dans ce contexte rare et courageux. Son programme abordait, entre autres, l'étude des poètes espagnols du XXe siècle, Alberti, Hernández, García Lorca. À partir de ces textes, nous nous exprimions sans contrainte et il se contentait de corriger nos fautes ou de nous donner des éléments de vocabulaire. Julie se révéla être une excellente hispaniste, et elle trouva dans ses cours d'espagnol un espace de liberté idéale. Monsieur Mateo se contentait de canaliser son énergie et son temps de parole. Dès que ses interventions avaient réveillé le groupe, il lui demandait de se taire, mais si le silence s'installait, il lui donnait à nouveau carte blanche. L'espagnol devint, en 3 semaines, notre cours préféré, parce que nous pouvions enfin y parler de nous-mêmes et, sous le masque transparent d'une autre langue, nous disions ce que nous n'osions pas dire en français.
Bandoleros cantan las espuelas, en la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La negra sangraba el costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? La luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo.
À l'opposé de Monsieur Mateo, se situait la prof d'histoire géo. Madame Magne, que l'on avait affublée d'un surnom qui dénotait notre manque d'imagination. Charlemagne. Sèche comme un cotteret, dure comme un galet, étroite d'esprit, elle ne méritait pas de porter le nom d'un empereur, mais, je le répète, notre imagination était très limitée. Les cours de Charlemagne consistaient en une insipide succession de dates de batailles, de décrets, de traités et de décès. Toujours des décès, d'ailleurs. Un de mes camarades avait très justement remarqué qu'avec elle, les gens ne faisaient que mourir. Ils ne naissaient jamais. Nous essayâmes, pour lui faire perdre le fil de sa psalmodie, de lui demander, chaque fois qu'un grand personnage décédait, quelle était sa date de naissance. Mais cela l'exaspéra très vite et elle régla le problème selon son habitude. Elle colla le troisième perturbateur qui se manifesta, ce qui nous calma aussitôt. Le cours de Madame Magne ne sortait de la litanie des dates que lorsque nous évoquions un événement particulièrement contraire à sa conception du monde. La mort de Jeanne d'Arc, l'exécution de Louis XVI, le triomphe du communisme en Russie, la perte, par la France, de ses colonies. Elle entrait alors. On le devinait à la pâleur extrême de son visage, au pincement mécanique de ses lèvres exsangues, dans une sorte de colère froide. L'amertume l'envahissait, et elle semblait alors vivre ces moments désormais révolus comme des affronts qui la concernaient personnellement et qu'elle devait subir encore et toujours. La rencontre entre Julie et Charlemagne ne pouvait conduire qu'à un affrontement frontal, et c'est ce qui se produisit. Dès le premier cours, alors que la professeure parlait avec une haine à peine dissimulée des bolcheviks, Julie s'étonna, sans prendre de gants, que pas un mot n'ait été dit sur la condition du peuple russe sous les tsars. Un silence total s'abattit sur la classe. Il dura quelques secondes pendant lesquelles les deux adversaires se toisèrent avec, dans les yeux, leurs expressions les plus habituelles, colère sourde d'un côté, nonchalance de l'autre. « Mademoiselle, je mène mes cours comme je l'entends. Le programme est long, je ne peux pas entrer dans les détails. »
« Je comprends, mais il ne s'agit pas d'un détail, sauf le respect que je vous dois, madame. »
Ces mots frappèrent la professeure comme une gifle. On la vit vaciller. Elle trouva la force de répondre d'une voix blanche. « Mademoiselle, connaissez-vous le sens du mot respect ?»«
Oui, » poursuivit Julie sans se démonter, « mais là n'est pas la question. La question est de savoir si on peut comprendre une révolution si on ne sait pas dans quelles conditions vivent ceux qui se soulèvent. »
« Eh bien, on ne vous demande pas de comprendre. Ici, vous écoutez, vous apprenez et vous vous taisez. Sauf le respect que je vous dois, mademoiselle. »
Elles se toisèrent à nouveau. L'expression de Julie avait changé. À la nonchalance et à la gouaillerie se mêlaient la provocation et le défi. Je crus qu'elle allait répondre, mais, contre toute attente, elle se rassit. Sans un mot, moi, qui commençais à la connaître un peu et à prendre goût à tout ce qu'elle apportait de fraîcheur et de gaieté dans nos vies, je savais qu'elle n'en resterait pas là. Plusieurs cours d'histoire se déroulèrent ensuite sans que Julie ne se manifestât. Puis, juste avant les vacances de Noël, alors que nous nous installions en classe, elle sortit de son cartable des pelotes de laine et des aiguilles à tricoter. Des murmures et rires étouffés marquèrent l'apparition de cet attirail saugrenu. Julie se mit à tricoter comme si de rien n'était. La surprise suffoquait tellement Madame Maille qu'elle ne put parler pendant de longues secondes. Plus sèche et rabougrie que jamais, elle réussit enfin à bouger et, événement exceptionnel, historique, pourrait-on dire en l'occurrence, elle descendit de son estrade et vint se planter devant Julie. « Pouvez-vous me dire ce que vous faites, mademoiselle ?»«
Une écharpe, madame. » Les hivers sont froids ici et je n'ai pas d'écharpe.
Dois-je vous rappeler que nous sommes en cours ?
Oh, madame, répondit Julie d'une voix faussement timide. Pour le cours, n'ayez crainte, je ferai ce que vous avez demandé, comme d'habitude, écouter et me taire. Mais je me suis dit que cette fois-ci, je pourrais occuper mes mains. J'ai remarqué que si je suis inactive, je parle et je dérange tout le monde. »
Elle montra ses pelotes de laine à Charlemagne et poursuivit.
« J'ai choisi le mauve. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je finis toujours par choisir le mauve. J'hésite, je pense au bleu, au rose. Mais à la fin, j'en reviens toujours au mauve. Bizarre, non ?
Enfin, on a toutes nos couleurs préférées.
Vous, c'est le gris, de toute évidence, avec une touche de noir, pour égayer. Ça vous va bien. Vous tricotez, vous aussi ?
Julie conclut sa tirade par un sourire enjôleur. La classe était médusée et ravie. Quant à Charlemagne, elle semblait transformée en statue de sel. Elle crut s'en sortir en attaquant Julie sur la leçon qu'il fallait étudier.
« Puisque vous prétendez connaître votre cours, je vais vous interroger oralement. À la première erreur, vous aurez 0 et ce sera votre note trimestrielle. »
« Je vous écoute. » « Alors, pendant 5 minutes, Madame Maille bombarda Julie de questions. Au début, elles concernèrent seulement la leçon en cours. » Puis elles s'en écartèrent, mais aucun des pièges tendus par le professeur ne fonctionna. À la fin, elle ne donnait même plus l'année de l'événement.
« 18 janvier ?»«
18 janvier 1871, proclamation de l'Empire allemand par Guillaume Ier. »«
4 mars ?»«
4 mars 1848, décret abolissant l'esclavage. » Connaissant la marotte de Charlemagne, Julie avait étudié par cœur toutes les dates du manuel. À chaque bonne réponse, la professeure devenait plus agressive. Elle avait compris qu'elle était prise à son propre piège. Elle tenta une dernière manœuvre.
« 11 juillet »
lança-t-elle avec aigreur.
« 11 juillet 1792, proclamation de la patrie en danger. »
« Vous vous trompez, mademoiselle. Cela s'est passé en 1791. »
Je vous mets 0 pour tout le trimestre. »
Julie répondit avec calme qu'elle ne se trompait pas et se tourna vers moi pour me demander de vérifier la date dans le livre d'histoire. « Page 157, » dit-elle. C'était bien ça. Elle avait donné la bonne réponse. Il était impossible que Maille se fût trompée. Elle avait triché, tout simplement. À la défaite s'ajoutait l'humiliation. Dans les rangées, des voix commencèrent à scander « 1792, 1792 !» de plus en plus fort. Mais Julie leva la main et tout le monde se tut. « Permettez-moi de vous poser une question. À mon tour, à quoi correspond la date du 26 août 1970 »«
Taisez-vous !» répondit sèchement Charlemagne. « Vous échappez au zéro pour cette fois, mais ce n'est que partie remise, croyez-moi !»
Julie répéta, tranquille, sa question. « 26 août 1970 ?» Madame Magne tremblait de rage. La classe reprit un écho. « 26 août, 26 août, 26 août !» Et le vacarme augmentait tellement que, tôt ou tard, un surveillant, ou pire, le censeur, interviendrait. Julie posa sa question plusieurs fois. Et on avait l'impression d'assister au combat de deux boxeurs, l'un tenant encore debout par miracle, l'autre frappant des coups tranquilles et réguliers. Madame Magne, à bout de nerfs, finit par hurler «
Eh bien quoi le 26 août ? Quoi, quoi, quoi ?»«
26 août 1970 !» répondit souriante Julie. « Acte de création de ce qui deviendra le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes. » Ce jour-là, un groupe d'une dizaine de femmes dépose sous l'Arc de Triomphe, à Paris, une gerbe à la femme du soldat inconnu. Une de leurs banderoles disait « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. » Et une autre « Un homme sur deux est une femme. » En souvenir de cet événement, j'ai tricoté une écharpe pour vous aussi. Je suis heureuse de vous l'offrir. Et, avant que Charlemagne n'esquisse le moindre geste, Julie enroula autour de son cou une écharpe rouge sur laquelle des lettres blanches clamaient bruyamment « Liberté !» Le charivari, qui avait déjà atteint des proportions démesurées, prit une nouvelle ampleur. Au milieu des rires et des cris, Charlemagne titubait comme un pantin et essayait de se débarrasser de l'écharpe que Julie lui avait nouée dans le dos. Même le censeur, qui apparut à cet instant précis, ne put ramener le calme. La révolution, de toute évidence, était aussi en marche à Aveyron.
Nous aurons du pain doré comme les filles sous les soleils d'or. Nous aurons du vin de celui qui pétille même quand il dort. Nous aurons du sang dedans nos veines blanches et le plus souvent lundi sera dimanche, mais notre âge alors sera l'âge d'or. Dans tous nos problèmes et tous les discours, fini.
Le scandale fut total. Julie fut renvoyée, ce qui ne la tourmenta guère, car elle repartit à Paris en pension dans son ancien lycée. Cela signifiait, pour elle, qu'elle retrouvait une liberté de mouvement presque absolue. Les meneurs, dont je faisais partie, selon les autorités, furent recollés tous les mercredis pendant 3 mois, mais, là encore, cela ne représentait rien à côté de la bouffée de fierté que nous avions tirée de ces événements, comme disaient nos parents. Madame Magne cessa d'enseigner et fut affectée à des travaux administratifs qui l'éloignaient à jamais des élèves. Quand nous le sûmes, un de mes camarades, qui avait le sens de la formule, dit « Triste fin pour un empereur », et cela lui servit d'épitaphe. Mais ceux qui avaient changé de plus important à Sainte-Marie ne pouvaient ni se mesurer, ni se définir. L'air était devenu plus léger, plus transparent. Un souffle nouveau parcourait la cour et le préau. Nous venions de comprendre que, nous aussi, si nous le voulions vraiment, nous pouvions bouleverser la routine de nos vies.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
La 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 la, canta. La 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 la. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, partidos turbinas, la rida chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. La 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 la.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellas anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Que forman mi canto, y un canto de ustedes que es mi propio canto. La 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 la
Je n'ai jamais revu Julie, et j'en suis triste. Mais chaque fois que je vois quelqu'un lutter contre des forces qui semblent le dépasser, je retrouve dans ma mémoire son sourire gouailleur, sa joyeuse insolence et son regard limpide et plein d'énergie. C'est moi qui ai ramassé l'écharpe qu'elle avait accrochée au cou de Charlemagne, écharpe qui, dans le tohu-bohu de la classe, avait fini par terre. Longtemps, je l'ai gardée dans ma chambre, bien en vue, au-dessus de mon lit. Et puis, bien sûr, je l'ai rangée. Je l'ai ressortie il y a quelques semaines seulement, quand ma troisième petite fille est née. Ses parents l'ont appelée Julie. Je lui ai offert l'écharpe en cadeau de naissance. Tout le monde a pensé que j'étais fou. Un jour, je lui raconterai tout et je sais qu'elle, elle me comprendra. C'était Charlemagne et le MLF, une nouvelle écrite et lue par Bernard Bonne. Retrouvez-la en podcast et en rediffusion sur Radio Galaxy 98.5 MHz et sur le site internet de la station radiogalaxy31.com, tout attaché, et surtout n'oubliez pas le 31. Tant qu'à moi, je vous retrouverai le mois prochain et je reviendrai avec une histoire encore. À bientôt.
Il y a bien longtemps, je servais des canons de rouge aux potes à maman. Ça s'enivrait à la gloire du kir et des communards, rêvant du grand soir. Je me souviens de Vassiliev, parti en 17 à Kiev, donner vie au rêve. Pauvre Moudjik qui autrefois possédait pas même tes mains, il ne te resta qu'un bras, au moins c'était le tien. Guérosignol, cerise et carmagnol, quel cœur et quelle lune chanteront ces luttes pour ressusciter les rouges du bas de l'étoile rouge. C'est en 36 que Pablo s'en alla bâtir l'avenir et les châteaux sur le Guadalquivir. Il tomba sous la mitraille en braillant à plein poitrail, ay Carmel, ay. Puis Anna chez Benito a fait changer le tempo au Bella Ciao, ciao, ciao. L'hymne eut raison de l'idole, botte en l'air et née au sol, mais toutes ces cabrioles rendirent Anna folle. Et mon index trempé dans le Jerez, sur le mur Sano Passaran, en hommage à tous les rouges du bar de l'étoile rouge. Au bar de l'étoile rouge, reste plus que moi. Une vieille que les canons de rouge ne mettent plus en joie. Il y a toujours sur le mur
et crie le cri des purs et durs. Mais chacun s'en moque. Non, pas ça, c'est du passé, me disent des clients pressés. Faut changer d'époque. Mais même si ce goût de goulag dans mon verre en cristal de Prague m'a tiré des pleurs, l'avenir est-il si radieux que l'on oublie celles et ceux qui l'ont rêvé meilleur? Anna, Pablo, Vassiliev, de là-haut, de tout là-haut, vos petits frères, que le bar, même tard, reste.